Le poisson-chat était une créature avec laquelle on devait compter. Compagnon de jeu, boîte à ordures, il n'avale pas seulement vos boîtes de conserve, mais le papier, la paille de fer et les semelles de caoutchouc. Et, Dieu de la gadoue, on le révérait. On en riait et on le massacrait pour le manger. Non, le chat, le poisson-chat. Mot amer? Non, chat, chat, le poisson. Amer les mots. Non, le poisson-chat. Les mots amers. Les poissons-chats. Le mot amer. Non, poisson-chat et mot amer. Poisson-chat et mot amer. Poisson-chat et mot amer. Poisson-chat et mot amer.
Poisson-chat et mot amer, numéro 189, au pays du soleil levant. Poisson-chat et mot amer, un magazine qui avale les mots, épars, diffus, terribles, et les restitue sous forme de nouvelles, billets d'humeur, d'humour, carnet intime, carnet de voyage, recettes de cuisine anthropophage, rencontres, etc., etc., etc. Puis, les susurres à tes oreilles, ô auditeur émérite, cure-pipe et cure-dent. J'atteignis la petite ville d'Ikeda en m'en remettant au hasard, à la chance qui m'avait toujours donné un gîte au bout des pires journées. Il n'était pas aussi tard que le laissait paraître ma lassitude, l'obscurité ou les abords inhabités de la ville. Des adolescents en costume de lycéens me conduisirent vers l'unique rue commerçante de la ville. Un long passage pour piétons que dominait une toiture et me laissèrent devant la vitrine d'un ryokan où un chat que je crus endormi et qui était mort avait été soigneusement allongé sur une feuille de journal. Dans l'entrée, l'eau d'une cascade avait creusé la pierre du mur et rejeté dans le fond d'un vivier les poissons qu'elle n'avait pas assommés. Le bruit que j'avais fait en posant mon vélo contre une marche et en me déchaussant avait délogé de sa cuisine une femme enveloppée dans un tablier. Au regard qu'elle m'adressa, je sus qu'elle n'avait pas envie d'interrompre son hivernage pour empocher 3 ou 4 000 yens. Mais le regard surprit ensuite les chaussures, le vélo, la blessure, ma fatigue, mon infortune. La femme me poussa dans un labyrinthe d'escaliers et de couloirs qui desservait une infinité de chambres. L'immeuble donnait l'impression d'avoir été taillé autrefois dans le rocher d'une montagne et, bien qu'il fût désert en cette saison, d'être vivant comme une forêt. Des foules de pèlerins ou de convalescents qui s'établissaient ici tous les étés, attirés par la proximité d'un monastère prestigieux ou d'un onsen aux eaux curatives, avaient usé, patiné le bois des planchers, des rampes et des cloisons. À mesure que nous montions dans les étages, le ryokan sentait la paille humide et le renfermait. J'en avais assez de grimper et je finis par m'arrêter au milieu d'un couloir pour faire coulisser un fusuma au hasard et entrer dans une chambre. Mais mon hôtesse attrapa brusquement mon bras. Elle avait choisi pour moi l'endroit de l'immeuble où l'averse qui s'abattait dans une rue voisine et la cascade qui se déversait dans l'immeuble étaient si proches l'une de l'autre que, à défaut de se rencontrer, elles unissaient le vacarme de leurs eaux. Je n'eus pas le courage de faire demi-tour. Un froid, vieux de plusieurs mois, régnait dans cette chambre abandonnée, un froid emmagasiné comme une denrée et que ravitaillaient les courants d'air issus du couloir. des rares fenêtres ou encore de cette cascade qui traversait l'immeuble. J'avais vidé mes sacoches et alors que je déballais mes affaires, en ayant soin de ne rien poser sur l'enveloppe brodée du futon, à coincer par ma jambe blessée, le climatiseur que mon hôtesse avait réglé avant de s'en aller se mit à hurler comme une bête emmurée et à déverser un air chaud, chargé de poussière, écœurant comme un sirop. Ces lignes sont tirées d'un voyage au Japon, ouvrage d'Antoine Piazza, publié aux éditions du Rouergue. Dans chacun de ses livres, Antoine Piazza semble ouvrir une porte, explorer un continent, investir un genre littéraire. Avec Les Ronces, le roman autobiographique, avec Roman Fleuve, le roman d'anticipation, avec Mugaburu, fresque napoléonienne, le roman historique. Natif du Tarn et plus particulièrement de Mazamé, patrie de qui l'on sait, Antoine Piazza devait écrire sur le vélo, ou plutôt sur une escapade en vélo. Escapade au bout du monde, au bout de soi, où l'auteur évoque soif d'exotisme, solitude, goût de l'effort, petite frasque du quotidien, déception, des illusions, rêves, humour, souvenirs. Sur cette île du pays du soleil levant, beaucoup d'ordures, de friches industrielles, d'échangeurs routiers ou autoroutiers, un peu comme partout. Alors s'est-il perdu au bout du monde, dans ce Japon hyper industrialisé, comme il a pu le faire sur d'autres routes, d'Irlande, de Finlande ou d'ailleurs? De tout cela, il a su tisser un objet fort littéraire, un livre, un carnet de voyage. Si l'on n'est jamais seul, lorsqu'on est schizophrène, on n'est jamais seul non plus avec un vélo. Antoine Piazza, bonjour. J'essayais de résumer ta bibliographie. Chaque roman est un genre particulier, l'exploration d'un genre particulier. C'est voulu ou ça a été fait comme ça au hasard?
Jamais j'aurais pensé que je ferais un jour la relation des voyages à vélo que j'ai pu faire, puisque ces voyages à vélo remontent à 6 ou 7 ans, et c'était un petit peu un jardin secret que je me réservais. C'était une sorte d'échappatoire grâce à laquelle je pouvais m'oxygéner d'un certain côté, et puis laisser tomber mon ordinateur sur lequel je suis un peu trop souvent. Alors que dans mes... Le précédent roman que j'ai écrit, qui relate un chantier en Afrique, c'était une histoire déjà un peu ancienne, mais c'était aussi un projet assez ancien que j'ai remis à l'ouvrage à plusieurs reprises et pas toujours de façon très convaincante jusqu'à ce que j'arrive à en faire le livre qui a été publié. Donc ça, c'était un vieux projet. Mais pour ce qui est du voyage au Japon, qui vient de sortir il y a quelques jours, c'était différent. Ce n'est qu'après être allé au Japon que je me suis dit, mais... ce pays est extraordinaire, ça m'a vraiment complètement séduit et je vais en faire peut-être un livre, enfin comme tu disais tout à l'heure, un carnet de voyage, quelque chose. Et aussi je me suis dit, tiens, c'est bien parce que ça sera aussi l'occasion pour moi de me détendre en écrivant, et je me suis là aussi rendu compte que c'était pas, ça me détendait pas beaucoup d'écrire, que l'entreprise d'un carnet de voyage ou d'un récit de voyage, ce qu'est ce livre d'ailleurs, et bien d'autres choses aussi, c'était une entreprise littéraire, enfin disons une entreprise d'écriture pour moi, aussi complexe, aussi éprouvante que pouvaient l'être les autres livres que j'ai entrepris, qui étaient disons au moins pour deux ou trois d'entre eux beaucoup plus ambitieux.
Dans ma présentation, j'ai oublié d'évoquer la route de Tassier, qui est un roman qu'on peut qualifier de roman monde, où il y a une multitude, un flot de personnages. Il y a aussi des camions sur des routes défoncées ou pleines de poussière. Et là, c'est une relation pratiquement seul à seul, avec ses jambes, avec son corps, avec la route, avec un vélo et des rencontres furtives.
Disons que le fait de partir, c'est ce qui est un petit peu en exergue dans le livre, à savoir que le narrateur part à vélo au Japon et en hiver. Donc ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour se perdre. Et c'est le mot qu'il emploie d'ailleurs. J'étais maintenant prêt à me perdre. Et c'est la conjonction de toutes ces difficultés qui m'a permis, pas de faire un livre d'abord, de vivre quelque chose de très fort, c'est-à-dire de me mettre un petit peu, non pas en péril, mais en difficulté. Le fait de partir dans un endroit qui est très loin, dans lequel les panneaux de signalisation posent souvent problème puisqu'ils sont, écrits en signe kanji, c'est-à-dire signe japonais, enfin issu de la langue chinoise, mais en japonais. Donc souvent c'est très difficile. Parfois ils sont traduits en signe romain, ça devient plus difficile. Mais disons que j'avais mis face à moi pratiquement toutes les difficultés que peut rencontrer un randonneur comme je le suis parfois. Et de cette difficulté, en fin de compte, est né beaucoup de un certain bonheur d'exister sur ces routes, oui.
Alors, comment avoir choisi cette île? Une île singulière? Bon, je sais que tu habites cette
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Disons que, oui, c'est une île rurale. Alors, en fin de compte, je suis allé à la découverte du Japon en occultant un petit peu les villes. Parce que d'abord, je suis pas très attiré par les villes, et le fait de circuler avec ma bicyclette, évidemment, ça m'obligeait d'aller dans des coins perdus. Et je suis allé donc dans cette île qui est beaucoup plus rurale, beaucoup plus qui à une époque encore n'était, il y a, je sais pas, ne serait-ce qu'une trentaine d'années, cette île n'était pas reliée au reste du continent, si j'ose dire, enfin en tout cas au reste du Japon par des ponts, et les ponts sont relativement récents. Donc c'était une île un petit peu à l'écart du monde, et elle l'est encore un petit peu de nos jours. En tout cas, je l'ai ressenti puisque j'ai vraiment cherché à me perdre, et je suis arrivé à me perdre dans des régions de montagne, dans ce que j'appelle un moment, enfin, c'est pas moi qui l'appelle, mais cette espèce de Tibet du Japon qui est une région prise dans les brumes, où on rencontre personne, où il y a des rivières, où il y a des forêts. C'est un imaginaire qui me touche énormément, et à la recherche duquel je suis pratiquement tout le temps encore de maintenant, que ce soit au Japon ou ailleurs, peu importe.
Là, tu parles du paysage, mais c'est vrai que le lecteur a l'impression que c'est un environnement complètement fantomatique, relativement désagréable, de la brume, de la pluie, du crachin, du vent. Bon, il y a certes la montagne, mais dans cette île, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre du banal. Je parlais de friches industrielles, d'échangeurs autoroutiers, de stocks d'ordures.
Oui, à partir du moment, de toute façon, à partir du moment où on va au Japon, la modernité du Japon, elle existe aussi dans les zones les plus reculées. Tu citais tout à l'heure ce ryokan où j'ai atterri après avoir fait une chute qui aurait pu être beaucoup plus ennuyeuse pour moi. C'était un village complètement perdu. En fin de compte, il y a la même modernité. On entre dans un petit supermarché. On est en pleine montagne, mais il y a du poisson à gogo partout. Ensuite, dans les, je cite aussi les escaliers, les étages de ce ryokan. Le ryokan, c'est une auberge traditionnelle japonaise. Et on voit, ce qui est amusant, c'est que le soir, si vous allez aux toilettes là-bas, vous avez les toilettes à l'ancienne, là, cette espèce d'ogive qui rappelle un petit peu les vaisselles turques chez nous. Et puis à côté, une espèce de WC pour l'emploi duquel il faudrait presque un brevet, tellement il y a des manettes à toucher dans tous les sens. Enfin, c'est un détail un peu trivial, mais cette réalité, elle existe partout. Alors évidemment, à côté de ça, je ne suis pas insensible à même si l'imaginaire de la forêt, de la brume, tout ça, c'est quelque chose qui ne m'est pas indifférent. Je ne suis pas insensible à l'espèce de désordre de la ville, de cette espèce de fourmillement qu'on trouve au Japon, peut-être encore plus qu'ailleurs, puisque c'est 125 millions d'habitants sur un pays qui représente les deux tiers de la France, donc avec des populations qui sont vraiment centrées sur des endroits bien précis. récit est vraiment où on voit rien, quoi. Quand on arrive à Osaka, il y a rien, et puis il y a pas moyen d'y arriver à vélo, quoi. Je crois qu'on peut entrer à Paris avec son vélo, mais là non, c'est vraiment la quintessence de l'urbanisme, de la ville. Je crois qu'on le trouve là-bas. Et ça, on le voit très bien quand l'avion survole la baie d'Osaka, et ça doit être la même chose, peut-être pire encore quand un autre avion survole Tokyo. Il y a vraiment une impression de construction sur des constructions, d'empilement. On ne sait pas comment ça respire, tout ça, tellement il y a du monde. Et à côté de ça, c'est vrai que c'est un pays qui a su garder des traits. Il y avait un auteur qui disait, en parlant du Japon, c'était un petit peu un cliché ce qu'il disait, mais c'était pas inintéressant. Il disait c'est l'endroit où le futur rencontre le passé, ou le contraire, où le passé rencontre le futur. Il n'y a pas vraiment de présent au Japon. Il y a le passé qu'on sent très très bien, et il y a le futur. On voit le futur. Et ce futur aussi, auquel je suis très sensible, puisque c'est une réalité. Et la réalité, je n'ai pas cherché à la fuir en faisant ce voyage. Le futur, on le sent par tout un tas de détails que je cite dans le livre, notamment à la fin, quand il découvre un écran de télé qui diffuse un documentaire, et on voit l'extrême modernité, la technicité qui est absolument au top, quoi.
Et à un moment, tu évoques aussi un documentaire ou un reportage sur un couple de centenaires qui tourne en rond. Et le reporter a refait le même reportage 5 à 10 ans plus tard. Et là, il n'y a qu'une seule personne qui tournait en rond. C'est le passé sous les feux ou sous les caméras de la modernité.
Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que quand je n'ai pas la télévision. Donc, je n'ai pas la télévision. Mais si je voyage, il y a toujours un moment où j'allumerai le poste télé si je me trouve quelque part. Parce que voir la télé, c'est un peu entrer dans le pays. Et évidemment, la télé japonaise, elle est pas meilleure que les autres, hein, ça c'est sûr. Il y a des choses qui reviennent constamment. Ce sont des karaokés et les recettes de cuisine. Bon. Et à côté de ça, il y a des documentaires comme celui que tu cites là. Bien sûr, je comprenais assez parce que les images parlaient suffisamment pour que je sache de quoi ça parlait. Et oui, on voit ce qui est très amusant au Japon, c'est que on le sait, c'est le pays du monde où les gens vivent le plus vieux. Et justement, les caméras étaient allées surprendre un couple qui avait 101 ans pour fêter leurs 80 ans de mariage. C'était quelque chose comme ça, oui. C'était vraiment 75 ou 80 ans. Et ils vivaient depuis tellement longtemps ensemble, ce mari et cette femme, qu'ils en étaient venus à se ressembler, ce qui est assez fréquent. Et non seulement ils en étaient venus à se ressembler, mais en plus, ils étaient devenus quasiment asexués. C'est-à-dire qu'on aurait dit c'est pas méchant ce que je dis, mais ils avaient des attitudes un peu de singe, parce que de singe, c'est pas de singe, mais parce qu'on va me dire c'est pas bien de dire ça, c'est pas ce que je veux dire, mais ils étaient déshumanisés aussi. C'est l'impression que j'ai eue en les regardant. On les avait habillés, c'était peut-être pas leur faute, on les avait habillés pour qu'ils soient peut-être encore plus asexués qu'ils ne l'étaient. Et ça ressemblait vraiment à des camisoles, ce qu'on leur avait mis. Et ils tournaient en rond, ils ne comprenaient pas. La suite du reportage montrait les mêmes gens. Enfin, on était venu rendre visite à ce couple-là. Et 7 ans ou 6 ans plus tard, il ne restait qu'un des deux membres du couple. Et il était... on ne savait pas qui c'était, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas compris si c'est resté l'homme ou la femme, quoi. C'était marrant, c'était très intéressant. Il y a un même couple qui arrive au début du livre, mais dans la réalité de mon voyage, une femme qui se promène avec son père et sa mère et aussi. Ce qui était vraiment curieux, parce que quand j'emploie le mot singe, c'est absurde ce que je dis, c'est que peut-être ils avaient des envies très, des envies d'enfant, de monter, de descendre, de courir. Ce sont des choses qu'on voit souvent chez les enfants ou chez les animaux qu'on ne tient pas en laisse. Et c'était l'impression que ces couples-là ont pu me donner. Mais bon, c'est qu'une toute petite réalité du Japon. D'ailleurs, je ne prétends pas avoir saisi la réalité du Japon, évidemment.
Première pause musicale, El Rinete de Claude Marty.
Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Jinete blanco peregrino, cabalgando a su destino. Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Cruzando río, mar y monte, buscando un final horizonte. Mis abuelos eran aves, portados por vientos del sur, en la tierra donde pararon y empezaron, sabrás tú. Días de muchas horas y de poco descansar, de poca perra en el bolso, pero de mucho soñar. Algo de moro tenía y de judío ya ves. Algo de los anarquistas y de Cristo bien mezclado. Iban por la tierra hermana sin olvido al manantial. Me criaron de tres lenguas para que pueda yo viajar. Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Jinete blanco peregrino, cabalgando a su destino. Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Cruzando río, mar y monte, buscando un final horizonte. A mí me toca el camino, a mí me toca el andar. Angustias y alegrías, a mí me toca el cantar. Ma chanson, je te la donne, en France coule midi. En lengua d'or y en hispano, adiós, que me cal partir. Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Jinete blanco peregrino, cabalgando a su destino. Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Cruzando río, mar y monte, buscando un fin al horizonte. Siempre he querido saber quién soy.
Poisson-chat et Mohammer, numéro 189, au pays du soleil levant. Alors, justement, ce livre, ce voyage au Japon, où tu racontes tes pérégrinations en bicyclette, en vélo, sur une île en hiver, ce livre, le Japon, cette île, c'était une soif d'exotisme. Tu avais envie d'exotisme. Dans le livre, tu parles de pérégrination en Irlande, en Finlande ou même dans la région. Et pourquoi faire du vélo au Japon ?
L'exotisme, d'abord, je sais ce que c'est, mais je ne pratique pas. Quoi. Je suis incapable de ressentir le moindre exotisme. Je n'ai absolument aucune attirance pour les plages dorées, les Seychelles ou autres endroits comme ça. J'avais une attirance pour le Japon parce que, justement, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission. Le fait d'aller au Japon me permettait d'additionner toutes les difficultés que j'avais déjà rencontrées, c'est-à-dire des régions un peu perdues, des montagnes. Et en allant au Japon, en y allant en hiver, je rajoutais donc le risque de mauvais temps qui était vraiment accru. Je me mettais dans une situation d'incommunicabilité. Donc j'avais totalisé un certain nombre de difficultés qui allait incontestablement générer un plaisir, quoi. Voilà, si je cherchais la facilité, j'irais sur le bord du canal du Midi, ce qui me déplairait pas d'ailleurs, mais ça serait peut-être moins, ça engendrerait peut-être moins de plaisir. Oui, c'est ça, oui.
Alors, ça doit être du fait de la méconnaissance ou la non-connaissance de la langue japonaise. Mais c'est vrai que dans cet ouvrage, Un voyage au Japon, tu vois des gens, tu croises des gens, mais il n'y a pas vraiment de relation qui s'établit. Alors que tu fais référence, toujours dans le même ouvrage, de relations en Finlande, avec des couples autour d'une table qui t'indiquent une route à prendre ou qui sympathisent, ou alors d'autres relations dans les Pyrénées, la veille ou le lendemain du Tour de France, et en même temps que la finale de la Coupe du Monde de football, d'autres gens avec qui tu as des relations. Et là, au Japon, tu es passé près des gens, tu les as frôlés. Mais,
Il y a quand même, oui, bien sûr. D'abord parce que c'est très difficile de communiquer. Puisque, bon, apprendre le japonais, ça me paraît vraiment quelque chose d'inabordable pour moi. Les Japonais eux-mêmes ne parlent pas anglais. On dit toujours, oui, c'est bien au Japon, vous parlez anglais. Non, non, non. En tout cas, dans les campagnes, et même dans les ryokans, les petites auberges, les endroits où j'ai pu descendre, ils ne parlent pratiquement pas anglais. Mais il y a quand même une communication qui s'établit. Et à un moment, il y a un passage qui est très, très, très tendre et très joli. Quand cette femme, à la fin du repas, m'apporte une assiette avec des fruits coupés comme des origamis, elle exprimait quelque chose, c'était très fort. Donc, au niveau de la communication traditionnelle, il est évident qu'il y a un déficit dans ce voyage, ça c'est sûr. Mais il y a quand même, je reste persuadé qu'on peut communiquer sans parler ce qui s'est passé. Et disons que pour équilibrer, puisque dans tous mes livres, c'est l'humain qui domine, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain, c'est ce qui me paraît le plus intéressant, plus encore que les forêts ou les paysages sublimes que j'ai pu suivre avec mon vélo ou à pied. Donc, j'ai ajouté un certain nombre de flashbacks qui me ramenaient à d'autres voyages où là, oui, évidemment, la communication se faisait beaucoup plus facilement. En Finlande, même si le finlandais, c'est presque aussi difficile à apprendre que le japonais. Mais bon, on peut communiquer. On peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas très bien reçu partout. C'est ça qui a été mon cas. Et il y a des portraits de personnes qui qui jalonne d'autres chapitres, des chapitres extérieurs au Japon et qui font quand même partie intégrante du livre, avec un passage, donc ça nous ramène en France, comme quoi évidemment le voyage peut se faire en France aussi, à savoir l'avant-dernier voyage que j'avais fait qui consistait pour moi d'aller de l'Atlantique à la Méditerranée en passant par les grands cols des Alpes, et il se trouve que j'ai suivi ce parcours deux ou trois jours avant les coureurs du Tour de France, et puis j'ai vu comment s'installaient tous les aficionados pour suivre ça. Je suis descendu dans des endroits, des espèces de villes des villes thermales où les gens suivaient des cures ou d'autres endroits. Et là, il y avait vraiment le déficit d'humanité qu'on pourra trouver éventuellement dans le Japon est compensé par tout un tas de regards sur le monde qui m'entoure, qui m'avait entouré dans de précédents voyages.
Il y a chez toi un art de la narration, de conteur, et une facilité pour dire le banal, et le rendre universel. Je pense notamment dans ce voyage au Japon d'anecdotes, de faits, et notamment la quête d'une enveloppe plastique à bulles pour protéger le vélo. Et ça prend des allures d'épopée.
Oui, tout à fait, oui, mais ça c'est vraiment quelque chose auquel je tenais quand je racontais, quand j'écrivais ça, parce que de toute façon, à aucun moment, je n'ai eu envie de faire un récit de voyage touristique, essayer de faire connaître à mes lecteurs le Japon, tout l'imaginaire qui peut en découler, tout ça. Non, l'imaginaire le plus important pour moi, c'est celui que j'arrive à tricoter, si j'ose dire, avec les petits événements de ma vie quotidienne des difficultés que j'ai rencontrées sur place. Oui, tu parles de ce papier à bulles. Ce papier à bulles, c'est ce qui me permet d'envelopper mon vélo et de le faire repartir en soute. Et il faut à tout prix que je le trouve, autrement je suis totalement pénalisé. Et chaque fois que j'ai fait un voyage, j'en ai fait plusieurs, je crois que j'en ai fait 5 ou 6, chaque fois que j'ai fait un voyage, le dernier soir représentait la quête du papier bulle, soit en allant en acheter, soit en faisant vraiment les poubelles, en ramassant ce que je pouvais. On en trouve très facilement. Et le dernier soir au Japon, sachant que j'allais prendre l'avion le lendemain, je me suis dit, mince, j'ai pas de papier bulle. Alors je suis parti en quête de papier bulle. Voilà, et je suis tombé dans un restaurant de sushi, je sais plus son nom, un sushi bar, là. Et fin de compte, tout l'exotisme que représentait ce restaurant, qui était très amusant d'ailleurs, vu comment on servait la nourriture, était occulté par cette quête du papier bulle qui pour moi représentait tout. Alors j'avais réussi à me faire. Il y a eu une comparaison qui détonne un peu dans la relation et qui fait peut-être le charme du livre s'il en a un. C'est ce décalage qu'il peut y avoir entre l'aspect exotique, l'aspect purement japonais que le narrateur découvre et ses préoccupations intimes qui sont de toute façon parfois vraiment très 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 ordinaires.
Il y a aussi chez toi une propension à surligner justement la banalité. La banalité et parfois le côté qu'on pourrait considérer comme bof de certaines existences. Je reviens notamment à cette organisation sur les routes du Tour de France avec tous ces gens qui mettaient une énergie, une méticulosité à placer leur caravane à tel endroit d'un col, mais en même temps en ayant une vie comme chez eux, avec la télévision, avec les apéros, ne s'extrayant pas de leur contexte de tous les jours pour assister à un spectacle sportif.
Et ça, c'était une découverte pour moi. Qui m'a beaucoup amusé, donc cet aspect Tour de France qu'on trouve donc dans ce livre qui s'intitule Un voyage au Japon, mais vers la fin du livre, donc il y a un troisième ou quatrième flashback qui nous ramène à la grimpée du Tourmalet ou du col d'Aubisque. j'ai suivi aussi le col d'Aubisque, mais là, il n'y avait pas le Tour de France. Et alors donc, en suivant ces fameux cols mythiques qui allaient être suivis après moi par les coureurs du Tour de France, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas, c'était le camping-car. Le camping-car, c'est pour moi, c'est une notion qui m'était complètement étrangère. Et j'ai vu vivre les camping-cars ou des camping-caristes qui vivent comme des Robinson, certains, ou d'autres qui vivent en village. Il y a une organisation qui se fait, ils ont une espèce d'obsession pour leur camping-car. Ils ne vivent que pour eux, que pour lui, que pour les perfectionnements qu'ils vont lui apporter, que pour ils le garent sur la route. Je suis passé au milieu des camping-cars, au milieu des tables dépliées, avec au fur et à mesure que je montais, le café qui était servi sur la toile cirée, puis un peu plus loin, le pastis qui était servi sur toujours la toile cirée, et pratiquement les mêmes bonshommes qui étaient là, parce que les femmes revenant restent un peu en retrait, elles sortent pas du camping-car, elles bougent pas. Puis il y a une vieille grand-mère qu'on avait mise là, dans une caravane, là, pour garder la caravane en attendant le Tour de France, parce que les places sont très chères, c'est très très difficile, et donc évidemment les gens arrivent plusieurs jours auparavant, et ceux qui n'ont pas de place, ils se retrouvent au sommet du col. Et c'est très étonnant parce que le dernier col qui était, je me souviens plus du nom, c'est celui qui est au-dessus de Bagnères-de-Luchon. Quand je l'ai vu de loin, je croyais qu'il y avait de la neige dessus. Non, c'est pas le tour. Il va me revenir, mais c'est le dernier qui est à la limite de je sais plus. Il est très très connu aussi. Et c'était un de ceux que j'ai trouvé les plus faciles à grimper, enfin, les moins difficiles à grimper. Et quand je le vois de loin, quand je l'ai vu de loin, j'ai cru qu'il y avait de la neige dessus. Il n'y avait pas de neige, il y avait un amoncellement de camping-car, puisque le camping-car est blanc, parce que le blanc repousse la chaleur. Tous les camping-cars sont blancs, ça on l'a déjà vu. Et j'ai vu vraiment les Pyrénées investies par les camping-cars. Pays-Ressourde, pardon, c'est le col de Pays-Ressourde.
Deuxième pause musicale de l'émission, Alcia Diane.
My tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've swam before. Oh, well, here I've swam before. And soon I came, oh, so soon I came. Soon I came, oh, so soon I came. Soon I came to the silent place of choir voices. Till noon, and I've laughed and I've sighed. I know that here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that here I've sung before.
Pour Poisson Chat et Mohamed, numéro 189, au pays du soleil levant, en compagnie d'Antoine Piazza, pour son ouvrage Un voyage au Japon. Tout à l'heure, on parlait de soif d'exotisme, ça n'a pas été visiblement le cas. Il y a quelque chose du pèlerin, là aussi, à la fois dans cette quête des montagnes japonaises, de cette île japonaise, avec un vélo. Il y a quelque chose de l'ordre du rituel, non ?
Mais déjà, le fait d'employer une bicyclette, la bicyclette, c'est un outil. C'est un outil que je respecte énormément parce que je le trouve très complet, à la fois très fragile. Il y a aussi dans le livre, puisque le livre n'explore pas seulement le Japon, on est allé dans les Pyrénées, on va en Finlande aussi, et on explore aussi la préhistoire du narrateur qui a été cycliste très tôt et qui se targue d'ailleurs d'être un très mauvais cycliste puisqu'il n'est pas fort du tout, malheureusement. Et il explique sa relation avec le vélo, et puis notamment à un moment, j'écris que le vélo est un instrument tout à fait étonnant dans la mesure où il est. Vous avez des vélos qui coûtent des fortunes avec des alliages qui représentent des investissements incroyables et il ne peut pas exister la nuit. Jamais on n'a mis au point un système d'éclairage satisfaisant la nuit, et ce qui fait que vous avez à la fois des vélos qui sont extrêmement performants, qui pèsent rien du tout, moins de 10 kilos, et vous n'avez aucun système d'éclairage qui soit performant parce qu'on a l'impression qu'il est interdit de rouler la nuit. Et évidemment, le très mauvais cycliste que je suis s'est retrouvé très souvent la nuit perdu ou en passe de se perdre, et il analyse ça d'autant plus facilement qu'au moment où il est à en baver sur les routes, il n'y voit rien, il est perdu, il pleut évidemment, pour un peu il est tombé en plus, et bien il se rend compte qu'à cette heure-là, tous les grands coureurs sont au lit. On n'a jamais vu, le Tour de France dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment très présent dans les grands cols des Pyrénées, comme il l'est d'ailleurs dans les grands cols des Alpes, le Tour de France, c'est un exercice diurne, c'est un exercice aujourd'hui, de la journée.
Aujourd'hui, pas au début du Tour de France.
Certainement au début. Mais oui, parce qu'au début, il y avait 4 ou 5 étapes, et il faisait des étapes du style Marseille-Toulouse. Alors, une étape Marseille-Toulouse, ça, je ne sais pas ce que ça représente.
C'était l'époque où les vélos avaient des lanternes. Il y avait des lanternes.
Mais il n'était pas aussi médiatisé, puisqu'évidemment, ce qui a fait le Tour de France, c'est la télévision.
C'est sûr qu'il fallait voir les vélos.
Voilà.
Là, on parlait de rituels, de quêtes peut-être spirituelles. Il y a un état dont parle Roland Barthes dans un superbe ouvrage sur le Japon. C'est le Satori, c'est le vacillement des sens. Tu as atteint cet état en bicyclette sur cette île du Japon.
Oui, j'ai atteint quelque chose, mais j'ai absolument rien programmé. J'ai absolument rien voulu voir. Je savais par avance que j'allais dépasser certain nombre de choses. Et ce qui est amusant dans ce genre d'exercice, c'est une sorte d'exercice que de partir comme ça avec son vélo et surtout de ne pas préparer son voyage, que ce soit au Japon ou ailleurs. C'est que chaque matin, quand vous partez, et tout le reste de la journée, vous êtes sur votre vélo. La plupart du temps, c'est très agréable. Vous suivez des paysages somptueux. Et puis, vers 5 heures, quand vous commencez à ressentir un peu de fatigue, c'est là que ça se complique. Puisque la pause du soir, il va falloir la chercher et vous la ratez tout le temps. Et ce qui est magique, c'est qu'à 5 heures du soir, quand vous êtes fatigué, et bien en fin de compte, votre organisme, il a toujours les ressources pour vous faire avancer. Et ça m'est arrivé d'être fatigué, entre guillemets, à 5 heures du soir et de pédaler encore à 9 heures. Et donc, ça veut dire que quelque part, mon organisme, qui n'est pas celui d'un grand sportif, qui est celui de quelqu'un qui a une condition correcte, sans plus, eh bien, votre organisme, une fois poussé dans ses retranchements, il arrive encore à vous donner quelque chose. Et peut-être que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup parce que je le retrouve aussi dans l'écriture. Et à la fin du livre, je fais un parallèle entre le vélo et l'écriture. Ce qui est passionnant dans l'écriture, c'est quand vous écrivez ce que vous n'aviez pas l'intention d'écrire. Et pour écrire ce que vous n'aviez pas l'intention d'écrire, eh bien, il faut d'abord passer par l'écriture. Et à un moment, la magie opère quand vous vous rendez compte que vous portiez en vous quelque chose d'inattendu. Et c'est cet inattendu qui va faire peut-être le passage le plus intéressant de votre livre, que vous parliez du Japon ou n'importe quoi. Et cet inattendu de 5 heures du soir, là, quand je me retrouve sous une averse et je retrouve plein d'échecs, que je me mets en situation d'échec sans le vouloir, eh bien cet inattendu, ça opère aussi une magie dans ma journée de voyage. Et c'est cette magie que je retiens, de même que je retiens la magie de l'écriture quand vous ne savez pas ce que vous allez écrire et que vous l'avez en vous-même, que ça sort comme ça. Je trouve ça très intéressant.
Il y a des sports ou des pratiques qui suscitent beaucoup de littérature. Il y a la tourmachie, dont on peut dire ce qu'on veut, mais qui a suscité des plumes. Je pense à l'Iris notamment. En vélo, il y a cet écrivain niçois qui justement est décédé fauché par un véhicule alors qu'il était en vélo. Je pense qu'il s'appelle
Nucera.
Il y a là ces derniers temps un chroniqueur du Monde qui vient de faire, paraît-il, un ouvrage que j'ai pas lu mais très très amusant aussi et très philosophique sur ces pérégrinations en vélo. Le vélo, ça suscite un état qui amène une inspiration littéraire.
Ça je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là aussi écrire ce livre m'a permis d'essayer de définir la relation que j'avais avec la bicyclette. Et c'est vrai qu'à vélo, on ne voit pas les mêmes choses qu'à pied, on ne sent pas les mêmes choses, on n'est pas à la même vitesse, c'est tout à fait autre chose. Et le fait d'être perché sur une machine qui tient un équilibre et de maintenir cet équilibre par la force, seule force de vos muscles, ça vous oblige à un certain nombre de contorsions à la limite, quoi. Vous êtes toujours accroché à cette machine. Cette machine, si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Quand vous arrêtez de marcher, vous êtes debout, vous contemplez le paysage. Et donc la contemplation du paysage qu'on peut avoir à vélo, c'est tout à fait autre chose. Les odeurs qui vous arrivent sur le bord des chemins, c'est tout à fait autre chose. On voit à vélo, on voit le creux des fossés. On le voit à pied aussi peut-être, mais à vélo, on surmonte le creux des fossés. On est à une altitude qui n'est pas celle forcément que l'on a à pied, que l'on a en voiture. On est à une vitesse qui n'est ni celle de la marche, ni celle de la voiture. On est un petit peu entre deux mondes et on est sur ce bout de caoutchouc là qui tient par la magie de l'équilibre, d'une vitesse suffisante. Et puis, vous appréhendez le monde comme ça. Et moi, pour moi, c'est magique. Il est évident que si j'avais fait le Japon à pied, ou je l'ai fait à pied, là, je suis revenu l'année d'après pour parcourir une autre île, à pied cette fois-ci. Mais les sensations que j'ai reçues ne sont pas du tout les mêmes. Ça pourrait faire l'objet d'un autre livre, d'ailleurs.
La nuit, tout à l'heure, tu évoquais la nuit et tu disais que c'était incompatible avec la pratique du vélo. Toutefois, lorsqu'on arrive à avoir un minimum de lumière, la nuit, on ressent des choses différentes, où les sens sont différemment mis en éveil. Et aussi, il y a des odeurs plus profondes, des odeurs peut-être plus humides, certainement plus humides, qui remontent.
Il y a d'emblée une sensation de solitude qui est beaucoup plus forte. L'éclairage, même si on venait à entrer en possession d'un éclairage satisfaisant, il ne le sera jamais totalement. Il y a cette peur de ne pas être vu, quoi, parce que tu mentionnais Louis Nucera chopé par une voiture à un moment précis. Il est mort dans cet accident. Donc ça veut dire que le cycliste est très fragile. Donc, cette fragilité, elle est accrue, évidemment, quand il se trouve dans des situations extrêmes. Situations extrêmes, la première, c'est la nuit. Évidemment, la nuit, c'est très difficile de circuler à vélo. Et quand à la nuit s'ajoute le fait que l'auteur, le cycliste, le narrateur, en l'occurrence pour ce livre, se trouve perdu, qu'il est évidemment très fatigué parce qu'il pédale depuis le matin et qu'il est pris, comme ça a été le cas notamment un soir au fin fond de l'île de Shikoku, où il est pris dans une espèce de tempête qui soulève la moitié de l'océan tout proche. Et il évolue dans une espèce d'élément qui est tout à fait étonnant, qui est fait de route, qui est fait de nuit, qui est fait d'eau, même pas de pluie, d'eau, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était l'océan qui remontait et qui m'enveloppait. Et je me trouvais là, j'étais vraiment, vraiment proche de l'animal marin, quoi. C'était vraiment très amusant. Et donc, c'est par la suite que j'ai trouvé enfin à me loger dans une espèce de gîte pour randonneurs, qui était absolument épouvantable dans la mesure où c'était un blockhaus, c'était un endroit construit en béton armé, qui était ouvert toute l'année. Bien sûr, à cette époque de l'année, il n'y avait aucun fou comme moi pour s'y présenter, pour se présenter là. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que je ne pouvais même pas me sécher, faire sécher mes habits, parce qu'il n'y avait rien pour ça, que l'air rentrait partout, je suis parti et le gars qui le tenait m'a conduit dans une petite auberge. Et c'est vrai que j'ai pas affronté la réalité de cet endroit-là parce que j'avais vraiment besoin de me nettoyer de cette nuit et il me fallait vraiment un petit peu de confort pour ça.
Il y a une propension aussi à être à toujours trouver le côté humoristique, ironique des choses chez toi, et ça passe et les choses passent très très bien. Et tu es aussi quelqu'un qui aime beaucoup la musique classique. À un moment, il est question d'une chanteuse un peu particulière.
Oui, donc à un moment, pour entamer un chapitre qui raconte mes premiers débuts à bicyclette, je mentionne cette Américaine qui avait pris des cours de chant et qui voulait à tout prix devenir cantatrice et qui était assez riche. Arrivée à l'âge adulte, elle était assez riche pour se payer un studio d'enregistrement et pour se payer un professeur de chant, bien sûr, et puis un accompagnateur. Et tous étaient très performants, c'est-à-dire le studio, l'accompagnateur, le professeur, c'était tous très très performants, mais elle ne l'était pas du tout. Et elle persistait quand même jusqu'à la fin. Quelques mois avant de mourir, elle s'est offert, je ne sais plus quelle grande salle de New York, où elle a chanté. Et elle faisait pitié parce que c'était catastrophique la façon qu'elle avait de chanter. Et je fais un parallèle entre elle et moi sur mon vélo. C'est-à-dire que j'ai jamais attendu le moment d'être assez fort sur mon vélo pour m'attaquer à des morceaux du grand répertoire, ce qui fait que j'ai grimpé des grands cols et de façon aussi catastrophique peut-être qu'elle-même s'attaquait à des morceaux de bravoure que l'on trouve dans Mozart ou Verdi. J'ai établi ce parallèle et en ayant quand même au fond de moi-même une sorte de tendresse pour cette femme qui se risquait dans des tenues complètement extravagantes avec des ailes collées dans le dos, des robes, des maquillages, des trucs vraiment tout à fait insensés. Et elle s'appelait Florence Foster Jenkins, je crois, et elle est morte en 1944.
Et là, on va écouter un extrait de morceau parce que tu m'as dit que c'était tellement inaudible qu'il fallait pas aller jusqu'à la fin. Donc,
oui, c'est le grand morceau de la Reine de la Nuit de Mozart auquel elle s'attaque. C'est pas rien du tout. C'est vraiment le tourmalet de la musique lyrique et c'est vraiment très amusant. Je vous laisse écouter.
Thank you.
voilà, on arrête là, c'est vraiment pittoresque.
Oui, oui, mais c'est, il faut avoir entendu ça une fois dans sa vie.
Là, je disais en présentation de cet ouvrage et de cette émission que chaque livre que tu avais fait, c'était une, comme une expérience littéraire, une exploration d'un genre autobiographique, roman d'anticipation, roman historique, carnet de voyage, roman monde. Quels sont les futurs univers que tu vas explorer ? Tu as une idée ?
Non, je n'ai pas d'idée parce que de toute façon, il n'y a aucune intention encyclopédique. Je ne me suis pas dit, je vais. Voilà, j'ai fait un livre qui porte sur ça, un autre qui porte sur autre chose. Qu'est-ce qui me reste ? Alors, à ce compte-là, on pourrait dire, ah oui, un roman policier, allez, je vais écrire un roman policier, puis après un roman comme ci. Non, non. Non, non, j'ai un univers. Mon imaginaire représente une sorte d'univers. Ça peut être caractère autobiographique, comme ça l'est, comme c'est le cas depuis deux ou trois romans maintenant, ça le sera peut-être encore. J'aimerais aussi écrire un grand roman d'aventure, un grand roman historique avec des gentils et des méchants, des traîtres. J'aimerais écrire des choses comme ça, à la limite sans prétention. Et pour le moment, je m'en tiens à une sorte de... Mon intention, mon objectif en tant qu'auteur, mon objectif d'écriture, c'est une sorte de déchiffrage du monde. L'écriture me permet de déchiffrer, de mieux comprendre et en même temps de transmettre un imaginaire. On le voit avec ce voyage au Japon qui est un livre qui n'a aucune prétention. Il n'a pas de prétention totalisante qui consisterait à dire, voyez, vous ouvrez ce livre, vous serez au Japon. Vous ne serez pas au Japon. Vous serez dans le Japon que j'ai rencontré à un moment précis, qui est un Japon visité à vélo, avec du froid, du chaud, avec l'océan, avec des montagnes. C'est ce que j'ai rencontré. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête au stade de l'expérience. Voilà. Il y a très peu de détails qui veulent montrer. Si à la fin un petit peu, bon, le narrateur il a envie de comprendre comment fonctionne le Japon et en même temps il est un peu frustré parce que le Japon c'est tellement complexe qu'il n'y a qu'une petite partie qu'il arrive à déchiffrer à un moment précis. Mais bon, pourquoi pas ça, ça. Il y a d'autres auteurs qui peuvent très bien venir en complément de ce livre-là. Et puis voilà, si quelqu'un veut avoir appréhendé le Japon de façon plus complète, moi je n'offre pas le Japon. J'offre ces semaines d'hiver au Japon découvertes grâce à un vélo. Voilà.
Alors, je reformule ma question. Derrière chaque livre, on a l'impression qu'il y a une mise en abîme de l'acte d'écrire, une réflexion sur l'écriture.
Oui, parce que c'est Claude Simon qui disait que l'écriture, c'est l'aventure ultime. Il expliquait qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça dans sa vie, et puis après qu'il est arrivé au moment où il se mettait à écrire et que l'acte d'écrire, c'était l'aventure ultime. Et je crois que c'est l'aventure ultime. Et à la fin du livre, quand le narrateur fait un parallèle entre le vélo et l'écriture, on se rend compte qu'il explique qu'en fin de compte, le vélo, il y a des freins, il y a un guidon, il y a des roues. Qui vous permettent de grimper, de vous arrêter, de vous guider. Et dans l'écriture, il n'y a rien. C'est vraiment tragique parce qu'il n'y a rien. C'est l'aventure absolue, l'écriture. Enfin, c'est valable aussi pour d'autres formes d'expression artistique. La toile blanche ou la partition, la toile blanche pour un peintre ou la partition pour un compositeur. Il n'y a rien qui vous guide. Là, c'est vraiment le blanc total. On n'a pas ça avec le vélo. Le vélo, vous le posez sur une route. Si vous voulez vous arrêter, vous arrêtez. Il y a des freins. Si vous voulez tourner, il y a un guidon. Si vous voulez aller plus vite, il y a un pédalier. Vous allez aller toujours quelque part, quoi. Et même si vous allez au sommet du Mont Ventoux, ce qui est déjà une aventure en soi, ça ne sera jamais une aventure aussi forte que celle que vous allez vivre en écrivant. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens. Et c'est dans ce paradoxe, que j'essaie de mettre en place quand j'écris un roman, à savoir l'écrivain en train d'écrire aussi, ça apparaît ça, évidemment.
On a l'impression aussi en te lisant que dans cette écriture, qui est une écriture élancée, qui est belle mais classique, avec un certain classicisme, il y a derrière tout ça des tas de bibliothèques gorgées de livres, que tu es un lecteur impénitent et que toutes ces lectures se sont accumulées, et tellement accumulées que ça fait de toi un écrivain.
Oui, et alors il est évident pour moi qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas lu. Ça me paraît évident. Il y a des gens qui disent non, on peut. Je ne sais pas si y arrive, tant mieux. Moi, je me suis mis à écrire parce que j'avais d'abord beaucoup lu. Alors évidemment, au début, quand vous écrivez à 18 ans, enfin, quand vous avez passé le moment des poèmes et tout, vous basculez dans... Enfin, moi, ce qui était mon cas, c'est de basculer dans cette espèce de clonage de Boris Vian qui était absolument insupportable. Mais c'est très bien d'en être passé par là. Puis après, toutes les influences que vous avez reçues, vous arrivez à vous en défaire un peu. Et puis, vous trouvez votre style, un style qui vous est propre. Même s'il n'est jamais totalement dégagé de toutes les influences que vous avez connues, vous pouvez écrire avec un style qui est le vôtre, avec une écriture qui est la vôtre, des intentions qui sont les vôtres, même si vous transpirez la lecture, ce qui est mon cas. Et d'ailleurs, le narrateur est un gros lecteur aussi dans le livre, puisqu'il se trouve confronté au choix du livre, puisque chaque fois qu'il s'en va, sauf peut-être dans les Pyrénées, il s'en va dans des endroits où il ne trouvera pas de livre. Puisque lire un livre en finlandais ou en japonais, ça paraît assez délicat. Et il opère un choix dans sa bibliothèque, le choix d'un livre. Et ça donne quelques anecdotes peut-être assez amusantes à certains moments dans le livre.
Cette émission se termine. Cette émission est terminée. Antoine Piazza, je te remercie d'avoir fait le périple de cette jusqu'ici. Je te souhaite bien une longue et belle route.
Voilà.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci.
Poisson, chat et moi, mère, numéro 189, fin de l'émission. Fin de l'émission dans laquelle vous avez pu entendre Antoine Piazza présenter son ouvrage « Un voyage au Japon » publié aux éditions du Rouergue. Vous avez aussi pu ouïr El Rinete de Claude Marty, Tired Flat d'Alcia Diane et l'air du bijou, c'est ça ? Non ?
L'air de la Reine de la Nuit.
Et par ?
Par Florence Foster Jenkins. Et la Reine de la Nuit, c'est un des grands airs de la Flûte Enchantée de Mozart.
Merci. Poisson Chat et moi mère est une émission conçue et réalisée par Dominique Osnac. Merci à l'inaltérable Manu Plaza pour la réalisation technique. Allez, allez, ou belle, et à d'ici.